ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Alors, on remercie nos collègues de TVA Nouvelles, LCN. Ça a l'air que c'est compliqué de rejoindre les gens de la CEPAC. Mais rejoindre Vincent Dessureau, ça, c'est facile parce qu'il est en ce moment dans nos studios. Bonjour,
mais,
Vincent.
Bonjour. Mais les sites Internet fonctionnent pour les réservations aussi. Mais il semble que pour la CEPAC, il faut être très flexible dans les dates. Là, pour vous n'aurez pas le beau chalet un samedi de juillet au bord du lac. Là,
de toute façon, rien ne sera exactement comme on l'avait prévu et rien ne sera exactement comme c'était, mettons, à l'été 2019. T'sais, il faut descendre, baisser nos attentes et faire des deuils. Chaque jour, on fait des deuils de ci et de ça.
C'est vrai.
Fait que on est rendu comme habitué, finalement. Mais imagine quand même, tu sais, un feu de camp, je sais pas, toutes sortes de choses que tu prends pour acquis quand tu fais du camping. Ben, tout doit être pensé en termes de se protéger soi, protéger les autres. Tu peux pas louer un chalet si c'est pas des gens qui résident de toute façon sous le même toit. C'est ce que nous a dit Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, hier. Fait que plein de choses qu'on faisait normalement. Tu sais, tu dis à des chums, cet été, on loue un chalet, ou alors nous, on loue un chalet, puis venez nous rendre visite. Ben, tout ça, c'est pas vraiment possible.
Il y a des gens seuls aussi qui disent, ben moi, je partais avec des amis, j'irais pas tout seul au chalet ou tout seul dans une tente. Et que ça puisse devenir plus difficile.
En tout cas, alors plus rien ne sera comme avant, pour l'instant en tout cas, jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin. Bon, écoute, on commence peut-être avec ces 74 nouveaux décès au Québec.
Il faut rappeler que le bilan maintenant, le gouvernement le publie là, vers un peu passé 11 heures et n'est plus dans le point de presse plus quotidien, là, mais presque quotidien du premier ministre. Donc, 74 nouveaux décès aujourd'hui, un bilan quand même assez lourd. Là. Ça porte le total à 4302 morts dans la province. Là où les nouvelles sont meilleures, par contre, c'est les cas, toujours à 563 nouveaux cas, alors qu'on est à presque 15 000 prélèvements. Alors, des tests, on en fait beaucoup, mais le nombre de cas, alors qu'on déconfine et qu'on fait plus de tests, quotidien n'augmente pas, ou même est plutôt à la baisse. Ce qui est le plus à la baisse aujourd'hui, c'est les hospitalisations, ce qui est une très bonne nouvelle. Moins 47 hospitalisations, donc un total de 1331. Il faut rappeler que quelques jours à peine, ou peut-être deux semaines, on était à 1800, presque 2000 personnes hospitalisées. Alors, c'est un soulagement. Là, on enlève beaucoup de pression au réseau. Présentement, c'est une bonne nouvelle. 6 personnes de moins aussi aux soins intensifs. Alors, somme toute, les nouvelles, à part les décès, il faut le rappeler, c'est des nouvelles toujours tragiques. Mais dans ce qui est surveillé par la santé publique pour la réouverture, les données sont pas si mal présentement pour le Québec.
Et je profite du fait qu'on parle justement de chiffres et de statistiques pour vous dire qu'un petit peu plus tard dans l'émission, peut-être vers 12h20, on va parler avec Patrick Guéry. Il est analyste en politique publique et lui remet en cause certains des chiffres du gouvernement, comme par exemple quand François Legault tout récemment disait, bon, moi, si on se compare avec des grandes villes américaines, eux sont ou comme nous ou pire. Ben, lui, il dit, ben, c'est pas exactement vrai, pour ne pas dire que c'est faux. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, si les chiffres vous intéressent, on va parler de tout ça. Écoute, hier, c'était vraiment une journée record au Québec en termes de chaleur et j'étais chez nous où on crevait de chaud parce que, en tout cas, je ferais pleurer personne, mais la clim ne marchait pas. Et je me disais, les gens qui sont pris dans les CHSLD avec une température à l'intérieur qui frôlait le 32-33 degrés, c'est insoutenable.
Oui, et c'était vraiment des questions, une journée pénible hier et avant-hier. Aujourd'hui encore, quoique la température est un peu moins chaude. On parle encore qu'on atteindra avec le facteur humidex à Montréal plus de 35 degrés. Mais hier, c'est plus de 40. Même quand tu l'as dit, on a fracassé des records dans la métropole, mais aussi un peu partout au Québec. Et la situation qui était pratiquement insoutenable, malheureusement, dans plusieurs CHSLD de la région de Montréal. Et d'ailleurs aussi, où on n'est pas équipé pour faire face à ce genre de chaleur. On pouvait lire là, dans les dernières heures des préposés aux bénéficiaires qui parlaient de situations vraiment difficiles, de patients qui pleuraient même à cause de la chaleur et l'équipement, là, les masques, les blouses qui doivent être portés par le personnel aussi, au point où certains songeaient à porter leur propre ventilateur au travail parce qu'on ne les équipe pas assez. Plusieurs qui ont pris des congés aussi, alors ça nuit évidemment
au bon fonctionnement,
qu'il y a de l'absentéisme. Alors ceux qui restent doivent encore faire davantage davantage d'heures. Imagine 12 heures à cette chaleur-là. C'est vraiment insupportable. Alors, une situation qui est dénoncée par plusieurs, surtout que on n'est même pas encore en juin. Il y en aura d'autres périodes de chaleur, peut-être encore plus longues au mois de juillet, au mois d'août. Alors, faudra assurément améliorer les choses. C'est ce que le gouvernement souhaite. Mais pour cette vague-là, ben malheureusement, c'est trop peu trop tard à bien des endroits.
Et je tiens quand même à rappeler que chaque année au Québec, il y a des canicules. C'est une des caractéristiques du Québec. Tu sais, on en parlait hier. C'est oui. L'endroit au monde où il y a la plus grande amplitude de température. Plus 40, moins 40 l'hiver, plus 40 l'été. On vient pas tout d'un coup de découvrir qu'au Québec, il y a des vagues de grande chaleur. Et je le répète, en 2018, 90 personnes sont mortes de la chaleur au Québec. Qu'est-ce qu'on a fait pour équiper? Et je voyais passer, je pense que c'est un article dans le journal, en tout cas, peu importe, un CHSLD qui a été construit à grands frais dans je ne sais trop quelle région ici au Québec. Au coût de 25 millions de dollars, on a construit un CHSLD. Ils n'ont pas mis la climatisation. Mais à quoi les gens pensent? C'est comme, c'est allô? Je veux dire, c'est aussi ridicule que de se dire qu'on ne mettra pas le chauffage avec les hivers qu'on connaît.
Oui, surtout pour des personnes vulnérables.
C'est sûr que c'est pas la même durée. On s'entend que l'hiver, ça dure 6 mois.
Oui.
Puis les grandes chaleurs, moins. Mais c'est le même principe, c'est que c'est la base. On le sait, c'est pas comme une nouvelle. Ah, tout d'un coup, il y a une canicule au Québec, puis il y en a jamais eu, puis on s'y attend pas. C'est vraiment effarant.
Oui, mais c'est pas une question de simple confort, mais de survie des patients dans ces cas-là. D'ailleurs, des préposés qui, on les voyait, là, tordaient carrément leurs vêtements et ça dégoûtait là, au sol. Donc, situation vraiment pénible. Heureusement, ça achève. C'est ce qu'il y a de positif. On aura des températures plus fraîches dans les prochains jours.
Mais la question reste entière quand même pour le reste de l'été. Et comment allons-nous pouvoir équiper tous les CHSLD ou les résidences pour aînés avec ça? Ou alors, ils le font, mais ils te font payer pour.
Oui, payer un extra pour survivre à la chaleur.
Mais c'est évident.
Ouais.
Fait que quand t'as les moyens, c'est correct, mais quand t'as pas les moyens, donc on crée encore une fois deux classes de citoyens. Parlant justement de CHSLD, Marguerite Blais, donc, qui a fait une conférence de presse, je pense, ce matin.
Oui.
Et qui dit, bon, ben, parce que c'est l'objectif que s'est fixé François Legault, que d'ici le mois de septembre, qu'on ait formé 10 000 personnes. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard avec le président, directeur général du regroupement québécois des résidences pour parce qu'ils disent, ben nous, on est au privé, on paye notre monde 14 $ de l'heure, vous allez les payer 26 $ de l'heure, ben ils vont tous quitter pour aller chez vous.
Oui, il y a une inquiétude par rapport à ça, justement, dans l'industrie, là, au niveau des résidences privées pour aînés, qui dit, ben nous, on pourra pas,
on peut pas accoter
ça, là, jusqu'à 26 $ de l'heure, alors qu'on est très loin de ça dans le réseau privé. Alors, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, a été questionnée là-dessus ce matin. D'ailleurs, pour ce qui est des salaires, elle envisage, moi, c'est dit qu'on envisage au niveau du gouvernement, on examine le fait d'imposer un plancher salarial pour le secteur privé. Donc, on est en contact avec les différents syndicats. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui s'en occupe avec des organismes comme les CHSLD privés, Regroupement québécois des résidences pour aînés privés aussi, pour essayer de trouver une façon de faire. Et à la question, est-ce qu'on croit vraiment qu'on pourra trouver 10 000 personnes intéressées à suivre cette formation payée de 3 mois cet été pour être opérationnelle à l'automne? Est-ce que c'est illusoire de croire qu'on aura autant de gens intéressés? Madame Blais indique qu'on doit avoir de l'ambition et de grands rêves, là, ce qu'elle a dit. Mais selon elle, entre autres, les nouvelles conditions qu'on va donner à ces gens vont attirer des intéressés. On peut écouter la ministre là-dessus.
On va offrir des postes permanents par la suite. Ça. Déjà, ça, c'est beaucoup. On va travailler sur l'organisation du travail. Il y aura un bon salaire pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a des personnes aussi qui ont perdu leur travail à cause justement de la COVID.
Alors, intérêt possiblement pour des gens qui se retrouvent, on parlait de la PCU, se retrouvent au bout de ça. Ils seraient peut-être intéressés à faire un changement de carrière. Elle parlait entre autres du milieu de la restauration et même... Pardon, de l'aéronautique.
L'aéronautique, oui. Alors, si vous perdez votre emploi parce que, bon, par exemple, des mises à pied massives dans des compagnies comme Air Canada, et bien, dans le domaine des restaurants, évidemment. Donc, mais en même temps, il faut comprendre que c'est pas du tout le même métier. Et puis, les gens qui sont préposés aux bénéficiaires, c'est une vocation. C'est que tu es dans l'aide. dans ce qu'on appelle, je sais pas pourquoi on utilise tout le temps le mot anglais, mais dans le care. Je veux dire, si ta vocation c'est de préparer des gratins dauphinois à la truffe, c'est, je sais pas là. Ben oui, c'est sûr, si t'as vraiment pas le choix.
Ou s'occuper d'une clientèle en restauration, c'est pas le
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose que
c'est que ça prend 10 000 personnes qui ont le feu. Parce que c'est une vocation, c'est un métier très particulier qui demande une abnégation, un don de soi, une volonté de tu sais, quand même de rentrer dans l'intimité des gens quand tu donnes des bains, quand tu changes des couches et tout ça. Donc, ben écoute, tant mieux si on y arrive et c'est ce que je
vous souhaite,
évidemment. Ben justement, on parlait du domaine de la restauration, une réouverture des restaurants qui sera annoncée bientôt, mais
oui.
Sous quelle forme, dans quelles conditions, à quelle date, comment ça va se passer?
C'est
tant
ça.
De questions
ben,
et si peu de réponses.
D'ailleurs, le camping rouvre, mais on se rend compte dans le fin caractère que c'est pas la normale. Loin de là, et ce sera ça dans les restaurants, mais sachez que la première phase de réouverture des restaurants sera annoncée bientôt. C'est ce que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a confirmé aujourd'hui à nos collègues de LCN. Donc plusieurs, en fait, la santé publique, le travail, la CNESST sur tout ce qu'il faut là comme guide d'utiliser de façon de faire dans le milieu de la restauration. Alors, on va annoncer une réouverture graduelle de l'industrie, évidemment, et en suivant les directives de la santé publique, mais c'est quand même tout un casse-tête, entre autres, à Montréal pour les terrasses. On voyait, notre bureau d'enquête a obtenu un document de la Ville de Montréal qui explique que pour les terrasses cet été, si on peut en ouvrir, ça devrait être dans des rues qui sont piétonnes au complet. Ce qui complique, là, parce qu'imagine-toi là, des restaurants qui vont se faire dire, ben vous, votre rue est pas piétonne, alors pas de terrasse. D'autres à côté, c'est piéton, alors il y a une terrasse. Tout ça, c'est dans l'objectif de garder ses distances, parce qu'on doit laisser les trottoirs larges et libres aux gens qui vont faire des files pour commerces. Alors, les terrasses devront être au centre, au milieu de la rue. Alors, évidemment, on peut pas faire circuler les voitures. Alors, il y aura pas, dit-on, de one size fits all, au dire de la Direction régionale de la santé publique. Alors, on va faire du cas par cas à Montréal, mais ce sera tout un casse-tête rouvrir ces terrasses, si on le fait d'ici la fin de l'été.
Et tu dis... c'est un casse-tête, c'est le mot juste, parce que je regarde par exemple dans la petite Italie, donc ben on s'excuse pour les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, mais dans la petite Italie, il y a une épicerie fort connue qui s'appelle Milano, et quand la mairesse Valérie Plante a dit, bon ben on va piétoniser boulevard Saint-Laurent, on va fermer boulevard Saint-Laurent dans la petite Italie pour pouvoir justement que les commerces puissent... Bon ben il y a plein de gens, dont l'épicerie Milano, qui a dit, oui mais attends, les gens qui viennent faire l'épicerie chez nous, ils font comment là, si on... Donc, c'est de jongler avec les intérêts des uns et des autres. Parce qu'on se dit, de toute façon, on est pogné à Montréal cet été. Donc, on veut aller en vélo. OK, c'est parfait. On met des grandes pistes cyclables. Mais il y a plein de gens aussi qui ont besoin de faire l'épicerie. Donc, on a besoin des autos. Puis là, il y a les restaurateurs qui disent, ben nous, ça fait 3 mois qu'on est fermé. On veut ouvrir, on veut une terrasse. Oui, mais tu peux pas ouvrir sur la terrasse s'il n'y a pas une rue piétonne. Mais si la rue est piétonne, c'est pas le fun pour les épiceries. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde.
C'est là
ma conclusion.
Oui, t'as raison.
Je suis rendu philosophe.
Ah oui, hein, c'est vrai.
Joseph Facal, dans sa chronique ce matin, il dit, il faut profiter de la COVID-19, ça nous fait réfléchir à nous. Mais moi, cette philosophie-là, là, je suis rendu zen.
Mais aurais-tu le goût d'aller voir un bon concert dans un ciné-parc, c'était?
Ben, pourquoi pas?
Oui, tu prends tout ce qui peut être...
Oui, parce qu'ils le font en Allemagne. Il y a plein d'endroits où ils le font. Puis moi, je pense qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir. Donc, pourquoi pas?
Parce que le ministère de la Culture confirme qu'on a reçu le feu vert de la santé publique pour la tenue d'événements à ciel ouvert dans les cinéparcs. On sait que les cinéparcs, c'est la présentation de films, mais on pourra pas nécessairement se faire uniquement cette offre-là aux clients, mais aussi toute forme de spectacle, pourvu que les spectateurs soient assis dans leur voiture. Alors, on pourra avoir des spectacles de musique, des spectacles d'humour, d'art, peu importe. Alors, c'est une bonne nouvelle. Nathalie Roy qui s'est montrée très heureuse de cette nouvelle, disant la vie favorable à la santé publique fait en sorte que des initiatives créatives peuvent être mises de l'avant dans les cinéparcs, pourvu qu'elles respectent d'importantes mesures sanitaires, entre autres la distance entre les véhicules, les passagers qui doivent provenir d'une seule maisonnée, service de restauration qui est uniquement pour emporter. Alors, mais cette façon-là permettrait d'offrir certains spectacles. C'est sûr qu'il n'y a pas d'installation scénique.
Ben non, c'est ça.
D'importance dans les cinéparcs, mais on a peut-être moyen d'installer quelque chose qui permettra d'offrir certains événements là aux gens qui pourront s'y rendre.
Oui.
Alors, à surveiller.
Mais un truc aussi auquel il faut penser, c'est, je sais pas si tu as sûrement vu ces images-là de certains parcs aux États-Unis où on fait des cercles au sol pour indiquer aux gens pour qu'il y ait vraiment une distanciation sociale. Donc, je me dis, par exemple, dans des grands parcs comme les Plaines d'Abraham à Québec où on fait chaque année le Festival d'été de Québec, sur le Mont-Royal à Montréal, si on faisait des grands cercles comme ça au sol, on pourrait, théoriquement, non?
Oui.
Avoir, tu sais, sur les scènes où il y a normalement le Festival d'été de Québec.
Ça ferait pas grand monde. Parce que, évidemment, si t'as ton espace à toi.
Ouais, mais c'est mieux.
L'espace pour circuler.
Si t'en as 5000, c'est toujours bien mieux que si t'en as
zéro.
Pas du tout.
Oui.
Mais tu sais, en même temps.
Mais est-ce que tu mets tes billets à 500$ rendus là pour. Parce qu'évidemment, il y a le coût à défrayer. Là.
Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est impossible que tout le monde soit content.
Ça, c'est vrai.
Bon.
Ça, c'est vrai.
Alors, rien sera plus comme avant et c'est difficile de rendre tout le monde heureux. Ça, c'est les deux leçons à retenir de la COVID-19. Hey, on est rendu à 22. Écoute, il est midi 22. On a complètement débordé.
Alors, merci, Sophie.
Mais c'est parce que je suis tellement enthousiaste quand je te vois. J'en perds les pédales.
C'est gentil, écoute.
Hey, merci beaucoup, Vincent Dessureau.
Bonne
donc,
émission.
On se retrouve après la pause. On va parler donc avec Patrick Derry de ces chiffres parfois inquiétants, parfois rassurants concernant la COVID au Québec.